Il y a 2 semaines, ce brave Quentin ici présent était formel. On peut vivre du libre. C'est facile. D'ailleurs, tout le monde le fait. D'une part, les hippies quantiques bouffeurs de graines, mais aussi tout un tas de boîtes plus ou moins rapaces. C'est d'ailleurs ce qui fait que le caractère open source n'est plus vraiment une vertu. Dire que l'on fait du libre, cela ne suffit plus pour dire que l'on est éthique. Il faut regarder profondément comment on se fait de l'argent avec un logiciel dont on ne vend pas le code. Le libre s'est imposé, il paraît, et on a des tas d'exemples variés de modèles économiques autour du libre. Du modèle de la fondation sans capital, comme Mozilla ou plus récemment Signal, ou au modèle vampirique des technologies open source de Google et Microsoft, fait pour aligner les développeurs derrière une même technologie. On a toute une variété de modèles qui aboutissent à des petites entreprises, petits poissons dans le même lac que les grands, avec une diversité de financements et de pratiques. Parmi elles, BibLibre, une entreprise marseillaise de logiciels libres, contributrice au logiciel Koa, un logiciel open source de gestion de bibliothèques. Comment se développe une entreprise qui crée des logiciels open source? Comment gagne-t-elle de l'argent? C'est aujourd'hui ce à quoi on va tenter de répondre au travers d'un exemple, Koa. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission La Voix est libre, l'émission très hebdomadaire de Picassoft, une association qui s'est donnée pour but de sensibiliser et former les citoyens aux enjeux du numérique, d'héberger des services web respectueux de la vie privée et de promouvoir une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Vous écoutez actuellement Radiographique 94.9 et vous pouvez retrouver ce podcast sur radio.picassoft.net. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Quentin. Bonjour Quentin.
Salut Baptiste.
Et également avec Paul Poulain, co-gérant de l'entreprise BibLibre. Bonjour Paul.
Bonjour Baptiste et bonjour Quentin.
Alors, d'abord pour commencer, est-ce que tu pourrais brièvement décrire ce qu'est BibLibre, que fait l'entreprise en ce moment, en 2021, qu'est-ce qu'elle vend?
Alors, tout d'abord, je vais préciser, quand on parle de BibLibre entreprise qui fait des logiciels pour des logiciels de bibliothèque, on parle bien de bibliothèque de livres, de bouquins, et non pas de bibliothèque au sens des développeurs informatiques qui parlent de library de développement. Donc BibLibre, c'est une société qui est dédiée aux logiciels libres métiers à destination des bibliothèques. Donc, notre ADN, c'est de proposer que des logiciels libres et de ne travailler qu'avec des bibliothèques. Alors, bibliothèques de tout type, des petites, des grosses, des bibliothèques universitaires ou des bibliothèques municipales ou des bibliothèques spécialisées. Enfin, voilà, tous les types de bibliothèques. Ça fait un peu plus que 2 phrases, je crois.
D'accord. Et du coup, vous contribuez à un logiciel qui s'appelle Koa, qui est votre logiciel phare, mais vous proposez aussi des services sur plein d'autres logiciels libres, en fait.
Oui, c'est ça. Donc, la communauté Koa, il y a une bonne douzaine d'années, quand Koa a commencé à devenir un logiciel très connu dans le monde des bibliothèques, a décidé que les sociétés qui s'investissaient dedans et qui proposaient des services sur Koa ne s'appelleraient pas Koa Service ou Koa Training ou Koa Développement, etc., mais qu'on devrait toutes prendre un autre nom que le nom de Koa. Et puis, de toute façon, quand moi j'ai créé BibLibre avec mon associé Henri Damien, on s'était dit, mais on ne veut pas être une société qui nous propose des services que sur ce logiciel-là. On veut vraiment être des experts des logiciels libres, mais tous les logiciels libres à destination des bibliothèques. Donc on est investi dans le logiciel Koa et dans la communauté Koa, mais aussi d'autres logiciels, et on rajoute à notre portefeuille de logiciels des logiciels qui sont utiles aux bibliothèques. La seule contrainte, c'est qu'ils soient libres. Et on s'investit dans la communauté correspondante. Et donc, dans tous les logiciels qu'on propose, on fait vraiment partie des gens qui s'investissent dans le développement.
D'accord, ok. Et du coup, initialement, BibLibre s'est quand même fondé autour de Koa. Est-ce que tu peux dire dans quelle optique a été créé Koa? Pourquoi est-ce que vous avez ressenti qu'il manquait quelque chose? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit que, tiens, on va faire Koa?
Alors, en fait, je me suis pas dit on va faire Koa, parce que Koa, c'est pas moi qui l'ai commencé. Koa, c'est un mot de la langue maori. Les maoris, c'est les natifs, les de la Nouvelle-Zélande. Et le logiciel Koa a été créé à la fin de l'année 1999 par une petite équipe de 3 personnes. L'objectif de ce logiciel, c'était de remplacer un logiciel qui ne passait pas. Je ne sais pas, certains des auditeurs se souviennent peut-être qu'il y a eu une panique dans les années 90 sur les logiciels qui ne passeraient pas l'an 2000. Et donc, cette petite équipe de logiciels cette petite équipe de développeurs qui faisait partie d'une boîte qui s'appelle Katipo, ont décidé de développer un logiciel pour une petite bibliothèque municipale de la Nouvelle-Zélande. Et ils ont fait le choix de mettre ce logiciel sous licence libre par conviction éthique. Et moi, je suis arrivé dans le projet, j'ai été le deuxième contributeur non néo-zélandais à ce logiciel. Et en fait, au départ, je me suis impliqué à titre bénévole, par conviction personnelle. Je me suis investi dans le logiciel Koa en parallèle de mon emploi salarié dans une start-up. Et puis, c'était fin 2001. Et la start-up qui m'employait à l'époque a mis la clé sous la porte en décembre 2001. Et du coup, je me suis impliqué un peu plus dans Koa sans avoir forcément l'idée de créer une boîte derrière. Simplement, quand j'ai commencé à m'impliquer dans Koa, il y a assez rapidement des gens qui sont venus vers moi, des Français, bibliothécaires, qui sont venus vers moi en disant « Mais on a vu que tu étais impliqué dans Koa, nous on est bibliothécaires, on aimerait bien tester ce logiciel, mais on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment l'installer, puis on aimerait bien avoir quelqu'un qui nous aide à faire du support, si on a des problèmes, parce que c'est notre logiciel principal, c'est-à-dire sans un logiciel comme Koa, une bibliothèque ne peut pas prêter ses livres. Donc on a besoin de quelqu'un qui soit là si on a un problème pour nous aider. » Et du coup, c'est là qu'a commencé à germer dans ma tête l'idée de dire « Mais peut-être que je peux m'investir non plus à titre bénévole, mais à titre professionnel. » Et donc, c'est ce que j'ai fait à la toute fin de l'année 2002. J'ai commencé je me suis mis à mon compte d'abord. Donc, j'étais en profession libérale. Le statut d'auto-entrepreneur, il n'existait pas à l'époque. Donc j'ai commencé en profession libérale et puis j'ai fait ça pendant 2 ans tout seul. Et puis ensuite, il y a Henri-Damien Laurent avec qui j'ai travaillé sur le sujet. On a travaillé chacun en indépendant pendant 3 ans. Et au bout de ces 5 années, on s'est dit « mais il y a un vrai marché, il y a une vraie demande des bibliothèques et il commence à y avoir des grosses bibliothèques qui nous demandent de l'aide ». Et on ne peut pas répondre à ces bibliothèques s'il n'y a pas une vraie société au sens SARL du terme, construite, qui grossit, etc., qui répond à la demande. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé BibLibre en 2013.
Et alors Paul, juste une question. À l'époque, il ressemblait à quoi l'écosystème logiciel au niveau des bibliothèques? C'est-à-dire que tu mentionnes pas mal de grosses bibliothèques qui se mettent à Koa. Mais est-ce que c'est en l'absence d'alternatives sérieuses du côté des logiciels privateurs, en fonction d'un prix qui serait rédhibitoire? Est-ce qu'il y avait tout simplement pas assez de diversité, un monopole qui faisait que les logiciels étaient d'assez mauvaise qualité? Ça ressemblait à quoi?
Alors, j'ai envie de dire, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui se sont croisés. Il y a un facteur, dans quel ordre je vais les citer. Alors le premier de ces facteurs, c'est un mouvement de fusion-acquisition dans le milieu et des entreprises qui décident d'abandonner des logiciels. Et donc, alors je vais juste en citer un, quand la société Circe a racheté la société Dynix, pour créer la société Circe Dynix, eh bien, certains établissements, alors je vais encore en citer un, mais c'est tout à fait public comme information, l'Université de Lyon 3 avait signé avec Circe, et quand Circe Dynix a été créé, ils ont annoncé que le logiciel que Lyon 3 avait choisi, eh bien, il était abandonné, et donc du coup, Lyon 3 s'est retrouvé avec un marché public qui venait d'être signé, et puis l'entreprise qui leur disait « Ah, mais ce logiciel, ça y est, on l'arrête ». Donc ça fait pas mal de bruit dans le milieu, parce que les gens se disaient « mais ça veut dire quoi au niveau de la pérennité d'un logiciel ? Moi j'ai un logiciel, mais en fait on m'annonce que la boîte elle a été rachetée par une autre boîte, et puis ben, ils abandonnent un produit ». Donc ça fait partie des des points qui ont quand même titillé beaucoup un certain nombre d'établissements. La deuxième chose, c'est le milieu de la culture et le milieu de l'enseignement-recherche, donc tout ce qui est bibliothèque universitaire, laboratoire, CNRS, etc. C'est des gens qui, historiquement, sont habitués à, enfin, sont sensibilisés à la question de l'ouverture, du partage, des échanges, des standards, de travail commun, etc. Et donc, du coup, quand moi je suis arrivé sur ce marché, je dois dire quand même que j'ai été plutôt bien accueilli avec le discours un peu disruptif. De dire, mais moi, ce que je vous propose, c'est quelque chose de gratuit. Alors, par contre, si vous voulez que le logiciel il avance, eh ben, ce que je vous propose, c'est de financer des développements et vous le financez. Et puis, la prochaine bibliothèque qui adoptera le logiciel, eh ben, ce que vous aurez financé, elle n'aura plus à le payer puisque ça sera déjà existant dans le logiciel. Et par contre, ben, elle pourra développer autre chose et puis vous en bénéficierez. Sans avoir à continuer à payer des licences pour des nouvelles versions. Et donc ce discours-là est globalement bien reçu dans ce milieu-là, parce que c'est des gens qui sont déjà habitués à ce genre de partage, à ce genre d'échange. Et donc il y a, pour terminer sur ce point, il y a eu quelques vraiment pionniers qui ont décidé d'oser, quoi, et qui ont fait un pari, et tout le reste de la profession les a regardés avec un regard à la fois curieux et envieux. Je vais en citer deux. C'est les deux premiers gros établissements qui ont choisi Koa. Le premier établissement dans le domaine de l'enseignement supérieur, c'est l'École des Mines de Paris, avec Madame Masson, qui était directrice à l'époque, maintenant qu'elle est à la retraite. Et bien Madame Masson, un jour, elle a dit, moi j'en ai marre des logiciels privateurs, pour reprendre le terme que tu employais, qui fusionnent, qui m'imposent des contrats de maintenance délirants, etc. Moi, je fais le pari de ce logiciel qui est jeune, qui a des lacunes, mais l'argent que je ne vais pas mettre dans le contrat de maintenance horriblement cher, et ben je vais le mettre dans le financement du développement de nouvelles fonctionnalités. Et une fois que l'École des Mines de Paris est passée en production et que l'équipe des bibliothécaires a fait savoir autour d'elle, ben, vous savez, on n'est pas mort, et puis ça marche bien, et on est content, et puis ça bouge, et puis ça évolue, et puis ça nous coûte beaucoup moins cher que ce que nous coûtait l'ancien logiciel, et puis au moins on est sûr que la boîte elle va pas se faire racheter, etc., etc. Et ben ça s'est bien répandu dans le milieu de l'enseignement supérieur. Et le deuxième exemple que je peux citer, c'est la médiathèque intercommunale Ouest-Provence, donc c'est les bibliothèques de Istres, Miramas, Fos-sur-Mer, etc., donc dans le sud de la France, pas loin de Marseille, qui a fait le même pari, qui était de dire exactement le même discours, c'est moi je fais le pari que ce logiciel il se développe, il va continuer à se développer, et ce que je finance aujourd'hui, c'était vraiment un choix politique au sens des décideurs politiques du SAN, enfin du syndicat d'agglomération nouvelle à l'époque, qui était de dire, ben, nous, plutôt que d'investir des dizaines et des centaines de milliers d'euros dans un logiciel qu'on ne maîtrise pas, eh ben, on va investir et faire monter en compétences des gens et financer des développements qui profiteront à tout le monde ensuite. Voilà, je pense que c'est les raisons sont... J'ai à peu près fait le tour là de ce qui a expliqué le succès et l'irruption de Koa dans l'écosystème français.
D'accord, merci. Et du coup, ce que tu décris là, c'est l'émergence en fait d'une communauté autour d'un logiciel qui est le logiciel Koa. Une communauté qui va avoir, avec des tas de personnes qui ont des intérêts propres, qui des bibliothécaires qui veulent toujours des nouvelles fonctionnalités, des entreprises qui, mine de rien, doivent gagner leur vie et qui ne sont pas forcément au même endroit, qui se sont éparpillées autour du monde. Alors, concrètement, comment ça se passe, la vie d'une communauté ? Il y a un moment, il y a des décisions politiques à faire, des choix, des directions de logiciels à prendre, etc. Comment est-ce que, d'une part, la communauté est animée, et ensuite, comment est-ce qu'on tranche, finalement, quand il y a des questions quand tu as des questions de développement, des fonctionnalités qui éventuellement ne plairaient pas à tout le monde, etc.
Alors, c'est vrai que là, j'ai surtout parlé de l'écosystème en France, puisque c'est celui sur lequel j'ai créé BibLibre. Mais il y a eu un mouvement un peu comparable dans plusieurs autres pays dans le monde. Donc, au Royaume-Uni, il y a une boîte qui s'est créée, qui s'appelle PTFS Europe, qui fait la même chose que BibLibre. Aux États-Unis, il y a Bywater Solutions qui fait pareil que BibLibre. En Argentine, quelques années plus tard, il y a une boîte qui s'appelle Teke Solutions qui s'est créée aussi, etc. Et passé les premières années où on était un petit groupe, l'équipe néo-zélandaise, moi, quelques autres aux États-Unis, etc., on était dans un mode un peu. On improvisait, on était peu nombreux. Donc en fait, les décisions, elles étaient plus ou moins prises de manière informelle. En 2007-2008, je crois. On a traversé un moment un peu compliqué. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a une boîte qui a tenté un peu de s'approprier Koa, ce qui a abouti au déménagement de toute la communauté Koa sur une autre adresse que celle qu'on utilisait. Donc, l'adresse de Koa maintenant, du site communautaire, c'est koacommunity.org. Et non pas koa.org, qui est un domaine qu'on n'a toujours pas récupéré, même si koa.org aujourd'hui est un projet qui est mort. Tout le monde est passé sur koacommunity.org. Mais c'est à ce moment-là qu'on a aussi eu des questions de gouvernance. Jusque-là, on était sur un mode où, en gros, on disait qu'est-ce qu'on va mettre dans la prochaine version de Koa, et puis ben, elle sortait quand elle était prête. Et on a eu une version sur laquelle on a eu plus d'un an et demi de retard par rapport à ce qui était prévu. Et donc, comme et moi en France, et mes amis de PTFS au Royaume-Uni, et de Bywater aux États-Unis, etc., et ben, ils avaient déjà un certain nombre de clients, ben, c'était un peu compliqué pour nous de dire... Ben la version, oui, je vous ferai la mise à jour, mais elle n'est pas sortie encore. Elle n'est pas sortie encore. Et les bibliothèques, elles nous disent, mais nous, on a besoin d'avoir de la visibilité sur quand est-ce que la version, elle sera disponible. Et donc, après la version 3.2, on a décidé de changer de schéma et de ne plus passer sur une publication de version basée sur les fonctionnalités dans la version, mais basé sur un timing, un tempo. Et donc, on a dit il faudra qu'on ait deux versions par an. Et donc, on est passé d'un feature-based release à time-based release, donc publication basée sur le temps. Et donc, tous les ans, on a une version au mois d'avril, une version au mois de mai, une version au mois de novembre. Et quand on a pris cette décision, on a aussi... réaliser qu'il était temps de s'organiser, d'avoir des rôles de personnes qui soient officiellement élues, on a décidé de faire ça avec des élections, qui soient officiellement élues dans la communauté Koa, qui est une communauté qui est complètement informelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de fondation Mozilla ou de fondation Apache derrière la communauté Koa. Et donc, à chaque fois qu'on a une version qui sort, on fait une élection pour les différentes responsabilités pour la prochaine version. Donc, par exemple, on a un release manager, qui est donc le responsable de la prochaine version qui va être publiée. On a des release maintainers qui sont responsables de la maintenance des versions qui ont été publiées. On a une équipe de QA, de contrôle qualité. On a une petite équipe, toujours trop petite d'ailleurs, de responsable de la documentation. On a maintenant une personne qui est responsable de la newsletter, etc. Et donc, il y a tout un tas de rôles qui sont définis. Et puis, si quelqu'un veut proposer un nouveau rôle, en général, on ne dit pas non. Parce que la personne qui propose un nouveau rôle, en général, il dit aussi qu'il veut bien remplir le rôle qu'il propose. Et donc, en général, je n'ai pas souvenir qu'on ait refusé un rôle. Et pour être tout à fait transparent, il n'y a eu qu'une fois où, pour un rôle donné, on a eu deux candidats. Donc, quand je dis c'est des élections assez à la communiste, où il y a les candidats ont 100% de vote, puisque en général, ils sont tout seuls. Donc, La communauté s'est organisée comme ça, et donc là j'ai parlé des personnes, mais ça veut aussi dire qu'au cours du temps, on a mis en place un certain nombre d'outils. Donc on a un wiki, des listes de discussion, bon, c'est des choses tout à fait standards dans les écosystèmes open source. Donc un wiki, un Bugzilla pour tous les bugs, un site web qui est sur WordPress, on a un chat sur IRC, on a un automate Jenkins pour tout ce qui est test automatisés, validation, on a voilà, tout un tas d'outils, des choses qui sont très standardisées en fait, et qui se sont construites au fur et à mesure du temps que certains avaient une idée, un besoin et l'implémenter.
Merci beaucoup Paul de ce que tu dis. J'ai l'impression que une des choses qui fait la pérennité déjà de Biblib, c'est que tout ce que tu racontes là, ça semble quand même bien correspondre à la définition d'un commun qui fonctionne bien, comme le disait Elinor Ostrom, là, qui est prix Nobel d'économie, qui avait travaillé contre cette histoire de tragédie des communs. Donc on a vraiment une communauté qui est relativement autonome vis-à-vis d'une entité supérieure qui prendrait les décisions. On a des règles de gouvernance bien établies. Des élections, voilà, une bonne participation de la communauté. Donc j'ai l'impression que c'est déjà une des raisons qui font que un logiciel libre, ça peut bien durer dans le temps et être soutenu. Mais au-delà de ça, comme tu me disais avant, j'ai l'impression que le milieu bibliothécaire, on va dire scientifique en général, tu évoquais une CNRS, c'est un milieu qui est assez propice à l'adoption de logiciels libres, puisque effectivement on a toute une mouvance, même de manière générale, autour de l'open science. On comprend l'utilité que les publications scientifiques soient le plus possible en accès libre. On a beaucoup de bases de données ouvertes. J'imagine que c'est aussi le cas dans le milieu bibliothécaire. Et donc ma question, c'est est-ce que tu penses que le gros succès de BibLibre, dans ce cas-là du coup de Koa, serait transposable dans d'autres domaines où il y a des gros mastodontes qui sont bien implantés, comme je sais pas, la comptabilité, la gestion d'inventaire ou ce genre de choses?
Alors, déjà, j'ai envie de revenir sur ce que je disais avant en partageant aussi quelques limites du modèle de communauté tel que le vit la communauté Koa. On a parfois du mal à prendre certaines décisions dans la communauté Koa ou aller au bout de certaines décisions qu'on a prises. Parce que justement, comme il n'y a pas une entité qui tranche et qui dit « eh ben, on fait comme ça et tout le monde y va, et puis de toute façon, ceux qui ne veulent pas aller dans cette direction-là, eh ben, vous faites votre vie dans votre coin de toute façon, voilà », ça peut parfois ralentir certaines choses. Et puis ça veut dire aussi qu'on n'a pas de financement communautaire global comme peuvent l'avoir une fondation Mozilla ou une fondation Apache. Je vais prendre juste un exemple. Pour tout ce qui est recherche dans les catalogues, jusqu'à il y a quelques années, on utilisait un moteur d'indexation qui s'appelle Zebra. Donc il y a un outil libre que personne ne connaît, sauf les gens qui travaillent dans les bibliothèques. Et cet outil est vraiment en fin de vie, et donc on a mis du temps déjà à décider de passer à un moteur Elasticsearch. Et ensuite, il a fallu plusieurs années, peut-être 4 ans, pour que l'implémentation d'Elasticsearch soit enfin opérationnelle et fonctionnelle dans Koa. Et je pense que ça n'aurait pas été aussi long si on avait eu une entité qui tranche et décide, et puis qui dit ben voilà, on va dans cette direction-là et tout le monde y va, quoi. Là, il faut du temps pour emporter l'adhésion et pour faire que tout le monde s'y mette et tout le monde y aille. Voilà, donc je voulais aussi pointer ça parce que je veux pas faire croire que le modèle de la communauté Koa est un modèle parfait. C'est pas vrai, il a aussi ses limites, hein. Voilà. Et du coup, j'ai oublié ta question.
Du coup, ma question... Alors oui, non, mais effectivement, par contre, tu fais bien de pointer Je ne sais pas si on peut appeler ça des limites, mais en tout cas, les conséquences d'un modèle plus communautaire, en général, on constate quand même que quand il y a beaucoup d'horizontalité, ça peut arriver que certaines décisions soient un petit peu moins fluides, peut-être, ou un petit peu moins rapides. Mais on peut aussi se poser la question de est-ce que des décisions qui, finalement, arrivent à faire consensus au sein de la communauté, même qui prennent un peu plus de temps, ne sont pas aussi un facteur d'engagement pour la communauté qui va se sentir plus concernée, qui va peut-être rester plus longtemps. Donc, il y a toujours une balance... À faire vis-à-vis de ça, voilà quoi. C'est...
Oui, j'ai envie de dire aussi que ça veut dire que on peut rarement prendre de mauvaises décisions quand on met du temps à prendre des décisions.
Ouais, carrément.
Voilà, il y a aussi des avantages. Enfin, voilà, moi, j'ai pas d'état d'âme sur la manière dont la communauté Core est organisée, mais il faut bien réaliser, bien mesurer, et puis parfois il y a certaines décisions qui sont proposées à un moment donné qui font plouf et qui sont pas prises, et puis elles seront reproposées un an et demi ou 6 mois ou 2 ans plus tard, et pouf, là tout le monde doit dire ah ouais super idée, alors que c'est la même idée que celle qui avait été proposée. Non, mais juste elle a pas été proposée elle était proposée à un bon moment alors que la fois d'avant c'était pas le moment. Voilà, donc ça fait partie du jeu et de la nécessaire implication sur du long terme dans un outil comme Core.
Du coup, ma question c'était. Pardon.
Oui, est-ce que c'est transposable à d'autres écosystèmes ou d'autres. Comme tu citais la comptabilité.
Oui, parce que comme tu disais, Core, on a l'impression que c'est arrivé à un moment où vraiment tout se cassait la gueule, les logiciels fermaient, donc ça avait vraiment une bonne brèche. Alors que là, dans des trucs comme la comptabilité, il y a vraiment des logiciels propriétaires genre, hyper bien implantés. Avec une énorme force de frappe, quoi.
Oui, alors c'est vrai. Et puis, alors je pense que le logiciel de comptabilité est encore un truc très particulier parce qu'il y a des normes de comptabilité et que les normes de comptabilité françaises, eh ben, ce n'est pas les normes de comptabilité américaines, etc. Et que je ne suis pas sûr, alors je ne suis pas spécialiste, hein, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment imaginable d'avoir un logiciel libre de comptabilité mondiale qui puisse juste se paramétrer pour que voilà, il marche comme ça en France, il marche comme ça aux États-Unis et ça suffit. Alors que les principes et la manière de travailler des bibliothèques, c'est vraiment la même dans tous les pays du monde. Il y a des standards qui sont des standards mondiaux pour le catalogage. Donc juste pour mémoire, c'est le MARC, alors c'est MARC 21 ou UNIMARC, mais c'est deux déclinaisons d'un même format globalement unique. Les puristes diront que c'est ce que je dis est une horreur, mais pour simplifier, pour schématiser, c'est valable. Et donc ça aide quand même beaucoup à pouvoir développer un écosystème mondial, parce qu'on parle tous le même langage. Et puis une bibliothèque, dans tous les pays du monde, elle prête des livres, elle a des utilisateurs qui veulent rechercher dans le catalogue, qui veulent réserver un livre, qui veulent l'emprunter, etc. Donc ça facilite quand même beaucoup l'adoption, le niveau mondial. Je pense aussi que ce qui a fait le succès d'un outil comme Core, c'est que c'est un logiciel métier, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, c'est que c'est un logiciel métier qui est le cœur de la bibliothèque. Et donc, une fois que la bibliothèque se dit ben « moi ça m'intéresse d'avoir un outil comme Core », elle va forcément chercher un prestataire pour l'accompagner. Parce qu'il faut que ça marche, quoi. Parce que si ça ne marche pas, ma bibliothèque, elle est fermée. Donc, elle ne peut plus rien faire. C'est un peu comme un logiciel de gestion des approvisionnements chez Airbus. S'il ne marche plus, s'il y a une panne, ben, j'ai plus de pièces et je ne peux plus construire mes avions. Donc, c'est quand même central. C'est quand même absolument essentiel que ça fonctionne. Et donc... il y a une espèce de croisée des intérêts d'un monde qui est sensible aux problématiques de l'ouverture du libre, etc., et d'un outil qui est l'outil central dans son travail. Et puis, il n'y a pas de concurrence entre les bibliothèques. Peut-être que ça, c'est aussi un élément important. Il n'y a pas de concurrence entre deux bibliothèques. Imaginons qu'on développe un logiciel de gestion des stocks, pour garder mon exemple. Est-ce que moi, patron de Renault, je voudrais ouvrir mon logiciel de gestion des stocks en me disant, ah ouais, mais attends, j'ai inventé un super truc pour gérer mes stocks Renault, sauf que si je le rends ouvert et libre, alors le patron de Ford, il va pouvoir en profiter aussi et du coup ruiner mon avantage concurrentiel. Entre bibliothèques, il n'y a pas d'avantage concurrentiel. Les bibliothèques, elles ne sont pas en concurrence les unes par rapport aux autres. Donc la collaboration, la coopération, elle est beaucoup plus facile, quoi. Bon, j'ai pas d'expérience, mais j'imagine bien que si j'arrivais avec un logiciel de gestion des stocks chez Renault et que Renault me disait, mais moi je voudrais que vous implémentiez un nouvel algorithme de calcul des délais de réapprovisionnement, machin, quand mon stock descend, nanana, elle me dirait, mais ça je veux le garder que pour moi parce que j'ai des astuces et que je veux pas que le concurrent il découvre ces astuces. Donc je pense que ça, c'est aussi un élément très important dans le succès d'un écosystème comme celui de Koa. Et du coup, dans le succès des entreprises qui se sont créées autour de Koa, parce que même si parfois il y a des pays où il y a plusieurs entreprises, par exemple en France, on est plusieurs entreprises à proposer du service sur Koa, mais en fait, on est quand même en coopération parce que nos clients ils nous demandent des choses et que moi je vais pas développer quelque chose que je vais garder secret pour embêter Tamil qui est une autre société française qui propose des services sur Koa.
D'accord, merci beaucoup Paul. On a déjà plus d'une demi-heure d'émission, donc on va passer, ouais. On va juste écouter une petite musique, si je la retrouve. Oui, donc on va écouter Last Dance par Zero Project et on se retrouve tout de suite après pour discuter grosse thune autour de Koa et de Biblivre.
Love.
Rebonjour à tous, vous êtes toujours dans La Voix est libre, l'émission de hebdomadaire de la radio Picassoft. Et nous sommes toujours en compagnie de Paul Poulain, co-gérant de l'entreprise BibLibre, une entreprise qui fournit des services sur le logiciel Koa. Rebonjour Paul.
Rebonjour.
Et maintenant, une question qu'on va se poser et qui est quand même assez importante, c'est comment est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous arrivez à vivre du logiciel libre? Vous êtes une vingtaine, je crois. Comment est-ce que vous arrivez à tous vivre de services sur ce logiciel alors?
Comme on s'adresse exclusivement à des bibliothèques, 99% des bibliothèques sont des structures publiques, donc on répond à des appels d'offres de marché public. Donc le petit pourcent qui reste, c'est des bibliothèques de fondation, des bibliothèques religieuses, des bibliothèques privées, mais il y en a très 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 peu en France. Et puis elles sont généralement pas très grosses, et donc c'est pas avec ces bibliothèques-là qu'on vit. Donc on répond à des appels d'offres et selon le type de bibliothèque et sa taille, etc. La concurrence, on va dire, on se retrouve en concurrence avec 5 autres prestataires qui proposent d'autres solutions propriétaires ou libres. Il y a un autre logiciel libre qui sert à gérer des bibliothèques, mais qui ne se positionne pas tout à fait de la même manière que Koa. Donc on est parfois en concurrence, mais assez rarement quand même. Comment on arrive à gagner de l'argent, à faire vivre 20 personnes, on gagne des appels d'offres. Et donc ces appels d'offres, dans nos réponses, ce qu'on propose comme solution, c'est on vous installe le logiciel Koa version communautaire, 100%, sauf cas très particulier où la bibliothèque elle veut des choses qui ne pourraient pas être mises dans la version communautaire parce que c'est trop spécifique, un connecteur avec un outil externe qui est vraiment fantaisiste, enfin qui est très spécifique. On en a quelques-unes, mais très très peu. Notre offre, c'est on vous installe le logiciel Koa dans sa version communautaire. Ensuite, on s'occupe d'un système clé en main. Donc, on s'occupe de tout ce qui est la migration des données de l'ancien système vers le nouveau système. Ça, c'est un gros travail et c'est souvent ce qui inquiète le plus les bibliothèques. C'est comment je fais pour que mes données de mon catalogue précieusement saisi ces 10, 20, 30, 60 dernières années, ils ne soient pas perdus au moment où je migre avec Koa. Et puis, est-ce que j'ai besoin que quelqu'un me garantisse que ça sera bien fait? Et puis, on s'occupe de faire le paramétrage. Parce que vous imaginez bien que dans une bibliothèque où il y a un réseau de 35 bibliothèques dans 35 communes, chaque commune va avoir ses propres règles de circulation des documents. On va dire, je veux qu'un tel puisse réserver sur un autre site, mais il doit aller chercher le document sur l'autre site, ou bien je vais lui livrer dans le site qu'il veut le document qui est dans un autre site, etc. Voilà, tout ce paramétrage-là, c'est extrêmement complexe. C'est pas complexe du point de vue de l'interface. Simplement, il y a un très grand nombre de cas et Koa est extrêmement paramétrable. Et donc, notre réponse, elle est de dire, on vous donne vraiment l'outil clé en main. Donc, vous nous expliquez comment vous voulez fonctionner au niveau de la gestion de vos utilisateurs. Quand ils s'inscrivent pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 mois. Vous catégorisez des adultes et des enfants, ou bien des étudiants de licence et des étudiants de master, etc. Et nous, vous nous dites, et nous, on s'occupe de l'implémenter dans le logiciel. On s'occupe aussi, bien entendu, de faire tout ce qui est formation des bibliothécaires. On s'occupe de faire l'hébergement. On a une offre en mode SaaS, mais on sait aussi aller installer le logiciel sur votre propre infrastructure d'université ou de grande ville. Par exemple, dans nos clients, on a la ville de Nîmes. Koa est installé sur l'infrastructure d'hébergement de la ville de Nîmes, qui a largement de quoi faire. Et donc, on s'occupe d'aller installer. Et puis après, on s'occupe de tout ce qui est donc en SaaS hébergement maintenance, mais quand on déploie dans la collectivité, on s'occupe aussi de la maintenance. Et donc la maintenance, ça veut dire le support aux bibliothécaires qui se posent la question de savoir s'ils veulent faire telle opération. Je veux Je veux modifier mes grilles de catalogage ou je viens juste de récupérer un fonds ancien et je ne sais pas trop comment je peux l'intégrer dans... Donc un fonds ancien, ça veut dire des livres qui me sont donnés par un chercheur qui part à la retraite et qui me donne... Et puis c'est intéressant pour moi de rajouter tous ces livres dans mon COA, mais comment je fais? Voilà. Et donc là, pour ces gens-là, on fait aussi la maintenance. Et nous, le choix qu'on a fait, c'est nos contrats de maintenance incluent les mises à jour mineures et majeures. Et donc, tous les trimestres, on fait une mise à jour. Trois fois par an, une mise à jour mineure. Et une fois par an, une mise à jour majeure. Et donc, nos clients, ils ont toujours la dernière version, enfin, l'avant-dernière version du logiciel. Parce que notre choix, comme le logiciel est fait en anglais, c'est on ne déploie pas la dernière version, mais l'avant-dernière. Et comme il y en a un tous les 6 mois, et que ben voilà, là on va déployer à l'été 2021 la version qui est sortie en novembre 2020. Et donc voilà, notre modèle économique, il est basé sur le fait de dire aux bibliothèques, nous on sait faire, donc nous on fait pour vous. Et ça sera plus intéressant et plus sûr pour vous de faire appel à nous que d'essayer de faire vous-même.
D'accord. Merci pour cette réponse. Un truc qui m'avait étonné, moi, à l'époque, quand j'avais travaillé à Biblibre, c'était que Biblibre perdait des appels d'offres pour une question de prix, en fait. Et c'est ça qui est assez paradoxal, en fait. C'est que ce n'est pas le reproche qu'on fait habituellement au logiciel libre. Alors, comment t'expliquer ce...
Alors, le marché des logiciels de bibliothèque s'est vraiment effondré ces dernières années. Vraiment effondré au niveau des tarifs. Y a un certain nombre de concurrents qui... je grossis le trait. Pardon. Alors, je vais dire les choses autrement. Quand une collectivité adopte un logiciel, pour gérer sa bibliothèque, en gros, le minimum, c'est 6 ans, mais c'est vraiment le minimum du minimum. Classiquement, c'est 8-10 ans, et parfois, c'est même 12-14 ans. D'accord ? Donc, une fois qu'on a signé un contrat, on sait que ce client-là, sauf si vraiment on fait un service de très, très, très mauvaise qualité, ce client-là, il est client pour une dizaine d'années. Et donc, il y a un certain nombre de nos concurrents qui ont un matelas de clients tel que, dès le 1er janvier, leur contrat de maintenance suffit à ce qu'ils soient à l'équilibre financier. Donc, ces clients-là peuvent facilement casser les prix dans les marchés publics parce que ce qui les intéresse, ça n'est pas de vendre le projet, c'est de vendre les 10 années de maintenance qui suivent. Nous, on n'a pas tout à fait le même fonctionnement, le même modèle économique, puisque d'abord on est une boîte récemment arrivée sur le marché. Enfin, 13 ans maintenant, c'est pas si jeune que ça, mais nous, on a besoin de faire tourner la machine avec des projets. Donc, on a besoin de vendre les projets en question. On pourrait pas dire le projet, on vous le fait à zéro, et puis vous payerez juste la maintenance après. Alors qu'on a certains de nos concurrents qui pourraient. Bon, ils le font pas quand même. Ça, les prix ne se sont pas cassés la figure à ce point-là. Mais nous, on a vraiment besoin de vendre la partie projet et la partie développement de nouvelles fonctionnalités quand il y en a, même si aujourd'hui, il n'y en a vraiment plus beaucoup, parce que COA est vraiment complet maintenant par rapport aux besoins du métier. Mais en tout cas, pendant pas mal d'années, on avait besoin de prévoir X milliers d'euros parce que, dans notre réponse, parce qu'on sait qu'on va avoir telle fonctionnalité à développer, tel module à compléter, etc. etc. Et que nous, notre modèle, il est basé sur le fait que si on fait un développement, on le reversera dans le pot commun et il sera disponible pour tout le monde. Mais nous, il faut quand même bien qu'on paye nos salaires à la fin du mois. Donc c'est pour ça qu'on a parfois un peu de surprise. On n'est pas toujours les moins chers. On est même, enfin, et même quand on est les moins chers, on est les moins chers de quelques pourcents, même aujourd'hui encore, quoi. En fait, le marché aujourd'hui, tout le monde sait à peu près combien les autres vont faire comme prix. Enfin voilà, c'est très rare qu'il y ait une offre à un prix complètement disruptif par rapport aux offres des autres candidats. J'ai envie de dire que notre modèle est en train, à nous Biblibre, maintenant qu'on en est à 13 ans et demi de présence sur le marché, notre matelas de contrats de maintenance commence à grossir. Et donc maintenant, le récurrent représente pour nous quelque chose comme 60% de notre chiffre d'affaires. Donc ça assainit aussi sur du long terme notre structure de coûts et du coup notre approche du marché.
D'accord. Alors, ce que tu décris, c'est donc une concurrence sur des appels d'offres. Ces concurrences, elles sont avec d'autres logiciels, mais tu décrivais aussi des fois être en concurrence avec d'autres personnes qui vont proposer les mêmes logiciels sur quoi ? Comment ça se passe une forme de concurrence sur le même logiciel en fait ? Comment est-ce que c'est la guerre ? Est-ce que vous répartissez des parties, etc. Enfin, comment ça se passe la concurrence sur un même logiciel ? Comment vous placez différemment ? Quelles sont les positions différentes des différents acteurs, quoi ?
Alors, ça n'est ni la guerre ni la répartition. D'abord, ça ne peut pas être la guerre parce qu'on coopère. Par exemple, je citais tout à l'heure Tamil, qui est une petite entreprise. Ils sont que deux. Donc, Tamil, ils sont aussi contributeurs au logiciel Koa. Donc, moi, le succès de Tamil est aussi intéressant pour moi parce que si Tamil ne remportait aucun marché, je serais bien déçu parce que il ne pourrait plus contribuer à la mesure de la taille de l'entreprise. Ils sont que deux, comme je dis. Mais donc moi, quand je perds face à Tamil, je suis moins déçu que quand je perds face à un concurrent propriétaire, par exemple, parce que je sais que indirectement, si Tamil a gagné, j'en bénéficie aussi. Bon, c'est indirect, on est bien d'accord, mais quand même dans l'idée philosophique. L'idée, c'est tout le monde profite pour tout le monde, quoi. Enfin, tout le monde remet dans le pot commun, donc du coup, tout le monde bénéficie de ce que l'autre a apporté. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, si, ça y est, j'ai retrouvé. En fait, il se trouve que donc on est trois sociétés à proposer du Koa en France et on n'est pas exactement sur le même type de marché, sur le même type de clients, etc. Donc on n'est finalement pas si souvent que ça en vraie concurrence. Ça arrive, hein, je dis pas que... Mais c'est pas... c'est pas systématique. On sait que il y a certains marchés, par exemple Tamil, ils sont jamais en face de nous, d'accord. Donc après on sait qu'on peut être en concurrence dans certains cas. Et ben on accepte. Et puis si l'autre il gagne et que nous on perd, et ben bien joué à l'autre. Et puis ben, j'espère bien que je crois que Tamil, quand nous on gagne et que lui il gagne pas, et ben il dit bien joué Biblibre. De toute façon il sait aussi que ça va lui bénéficier.
C'est très intéressant cette histoire un peu gagnant-gagnant même face à des sociétés qui sont pas les mêmes. C'est vraiment assez désirable, assez positif comme système. Comme tu le rappelais, il y a quand même un cadre assez spécifique aux bibliothèques. Alors tu disais qu'il y avait notamment pas de concurrence effectivement entre les bibliothèques, hein, le fait qu'une bibliothèque et un système libre va pas la désavantager ou l'avantager par rapport à une autre à la bibliothèque. Et puis tu rappelais aussi que le modèle de fonctionnement de Biblib, c'était, enfin en tout cas les manières de se financer, c'était de faire de la formation, du support, de la maintenance, voire de la possibilité d'héberger vous-même pour les bibliothèques. Dans la série qu'on a fait, donc là c'est déjà le troisième épisode sur les financements du libre, on s'était intéressé à deux autres modes de financement du libre. Il y avait celui où un peu la version communautaire, version entreprise, où on avait des fonctionnalités qui étaient en tout cas propriétaires, uniquement réservées aux entreprises qui payaient pour elles. Et donc là, on avait vu qu'il y avait des possibilités de friction entre les intérêts de la communauté et puis les intérêts des entreprises. Donc ce qui ne nous paraissait pas être un modèle extrêmement sain. En revanche, du coup, la question que je me pose, et je pense que ce sera la dernière parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, c'est est-ce que le modèle qui a l'air assez vertueux que vous avez chez Biblibre avec l'installation, le support, la formation et puis l'intégralité du logiciel qui est libre, sauf développement très spécifique, est applicable à des situations où on n'est pas dans un logiciel métier qui est le cœur du domaine d'activité de vos clients. Alors, je ne sais pas, on pourrait penser à un logiciel comme Mattermost, je ne sais pas si tu connais, de discussion instantanée, un alternative à Slack. Ouais. Donc voilà, est-ce que le modèle de Biblib, il est généralisable ou est-ce qu'on est condamné dans certains domaines à avoir un libre, peut-être ce qui conduit à des situations un peu moins vertueuses, à mon avis en tout cas.
Je crois que si j'avais la réponse à cette question, je serais un gourou mondialement connu. ce que je connais bien et ce que j'identifie bien, c'est la particularité du marché sur lequel on est. Et ce que j'ai évoqué précédemment, quoi. C'est on est dans le secteur public, avec des gens qui sont sensibles au modèle du libre, à des gens qui ne sont pas en concurrence les uns avec les autres, avec un logiciel qui est critique. Enfin, je veux dire, voilà, si ça ne marche pas, l'activité s'arrête. Et donc, je pense vraiment que l'écosystème Koa fonctionne et on est dans cet écosystème-là. Un outil comme Mattermost ou LibreOffice ou Firefox, pour citer deux qui sont très connus, on ne peut pas comparer. Nous, on n'a pas tenté et on ne tentera pas de vendre du service autour de LibreOffice, par exemple, et d'aller convaincre les bibliothèques de déployer LibreOffice dans les bibliothèques, parce que je ne suis pas sûr que c'est un modèle qu'on saurait mettre en place. Il y a des boîtes qui font du support sur LibreOffice, de l'assistance, de la formation, etc. Mais ce n'est pas tout à fait la même activité que la nôtre. Donc je ne sais pas bien répondre à cette question. Ce que je pense que je peux dire, c'est que nous, on ne saurait pas faire. Telle que l'entreprise est née et a grandi, et notre manière d'appréhender notre travail, je pense qu'on ne saurait pas faire. On sait à un moment donné poser la question de proposer des logiciels plus infrastructure. Donc Mattermost, pour moi, c'est un logiciel plus d'infrastructure qu'un logiciel métier. Et clairement, on s'est dit, on pensait à des serveurs d'impression, par exemple, et on s'est dit, mais non, mais on sait, c'est pas notre... C'est pas notre cœur de métier, c'est pas on sait pas faire, on va faire mal, quoi. On risque d'essayer de reproduire sur ces logiciels là ce qu'on fait avec des logiciels métiers, et c'est pas tout à fait la même chose, quoi.
D'accord, merci. Donc ce que tu décris en fait, c'est l'idée que Biblibre, elle a un cœur de métier qui est la gestion d'une bibliothèque, et que finalement s'étendre, etc., ce serait un poids, et en plus le modèle économique sur lequel est basé Biblibre ne serait pas en très bonne concordance en fait avec ces nouvelles activités là qui nécessiterait une structure, un modèle qui serait différent.
C'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs modèles du libre et que il y a des modèles qui sont adaptés à certains contextes et d'autres qui sont adaptés à d'autres contextes. Et c'est riche d'avoir plusieurs manières d'appréhender les choses. Et le modèle de Biblibre et le modèle de Koa et des autres entreprises qui sont créées autour de l'écosystème Koa, il n'est pas reproductible ailleurs, quoi. Par contre, on n'a parlé que de Koa, mais on propose d'autres outils. Et en fait, ce modèle continue à marcher avec d'autres outils que Koa. Parce qu'on s'adresse toujours à des bibliothèques. Et donc, on a toujours cette vision. Voilà, vous êtes une bibliothèque, on connaît votre métier et on vous propose des logiciels dédiés à votre métier, qui sont tous des logiciels libres. Et donc, on bénéficie toujours de ce mélange de... des gens qui sont sensibles au libre, aux données ouvertes, qui sont, etc. Voilà, tout ce que j'ai déjà dit deux fois, quoi.
Super, et ben merci beaucoup, Paul. Ça nous encourage à continuer notre exploration des modèles de financement du logiciel libre.
Je vous ouvre sur le quatrième.
et ben on te souhaite dans ce cas-là une excellente journée.
Et, merci beaucoup.
Et nous, on va rendre l'antenne.
Ben merci, ben bonne journée à vous aussi, et puis bonne journée à tous ceux qui écouteront cette émission.
Bonne journée.
Salut.
Au revoir.
C'est stop.